le monde il est beau, tout le monde y réagit.
À l'heure où l'éthique des multinationales responsables vient masquer leurs pratiques sauvages, où le commerce devient convivial, où les banques pratiquent l'égalité sociale par le microcrédit, où les projets de commerce équitable ne disent rien de leur conception de l'équité, où la politique de défense des minorités consiste à défendre les intérêts de celles que constitue la classe des nantis, où celle de l'autonomie permet de transformer l'humain en machine à assumer, où les projets alternatifs constituent autant de marges subventionnées par des partenariats publics-privés dans le dessein que ces projets restent en marge des processus de décision, où l'exploitation du Sud par le Nord enrichit des discussions de salon dans de nombreux milieux militants et où, en bref, la constitution de minorités en des camps de revendications souvent privilégiés offre de nouvelles façons de chercher à tirer profit des collectivités publiques, il est vrai que l'on peut douter de la force de rayonnement émancipateur de ces revendications qui, toutes, insistent pourtant sur l'application du respect des minorités inscrites dans la Constitution démocratique. Cependant, les résultats de changements observés dans le champ de cette activité civique ne se révèlent pas plus significativement satisfaisants que ceux observés dans le champ de l'activité politique. Des alternatives réformatrices assurant le maintien de la continuité aux engagements civils solennels de campagnes ciblées par objet de revendication, les indignations s'éparpillent dans le champ de l'inéluctable marché venant les contredire. De plus, l'arrogance moralisatrice de la responsabilité individuelle faisant désormais feu de tout bois et pratiquée directement ou indirectement dans les camps conservateurs aussi bien que militants, s'ensuit une confusion croissante, peu favorable en vérité à un changement se dirigeant vers une collectivité plus homogène et solidaire. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus est que la récupération peut ne pas être accidentelle, mais au contraire relever de l'action stratégique préméditée. On ne compte plus les structures, culturelles, artistiques ou militantes, qui, tout en critiquant le système, cherchent en réalité à y entrer par la porte dérobée de services que peuvent aussi constituer les revendications sociales. Alors quoi? L'impossible n'étant pas français, le serait-il devenu dans le langage de la pensée mondiale universelle? Faudra-t-il accepter le fait que le globish constitue désormais un horizon indépassable pour tous? Faudra-t-il également accepter qu'un militantisme à options multiples reste circonscrit dans des cadres essentiellement communautaristes repliés sur eux-mêmes, faisant ainsi de ces options autant de retours à une pensée égocentrique du groupe? Car si l'on veut ouvrir une réflexion au sujet des notions respectives du groupe et de l'individuel, encore faut-il s'interroger au sujet de leurs inspirations et de leurs pratiques respectives. Il ne s'agit effectivement pas de dire collectif pour l'être, et l'accès à une pratique réelle de ce type de fonctionnement n'est pas aussi aisé qu'il y paraît en le formulant. En ce qui concerne l'aspiration, et dans un monde résolument tourné vers un individualisme dévoyé, celle-ci peut sembler relativement rapidement souhaitable pour quelqu'un qui souhaite un autre horizon à l'humanité que celle du repli sur l'individu en tant que seul maître de sa destinée. Mais si l'on cherche à isoler les caractéristiques de ce fonctionnement, la notion de consensus apparaît assez rapidement. Le collectif est effectivement composé d'individus et la mise en accord sur des points essentiels de fonctionnement suppose que tous ne l'envisagent pas exactement de la même manière. Il faudra donc définir un point commun pour rendre ce fonctionnement possible. Et c'est justement cette notion de consensus qui semble actuellement faire défaut en vue d'un accord entre les multiples groupes d'opposition qui foisonnent actuellement et qui peinent à trouver ce point d'accord de revendication commun. Cependant, à défaut d'en trouver un, le risque est grand de voir tous ces mouvements se préoccuper plus des problèmes de concurrence d'idées et de démarches de visibilité, plutôt que de chercher à constituer un front de contestation susceptible de générer un changement de société. Aussi, le premier blocage à dépasser pourrait bien être de cesser de se diviser entre individuels et collectifs et de chercher plutôt à tenter de trouver les complémentarités nécessaires pour relier ces deux pôles d'une même volonté de changement, même si ces deux pôles ne parviennent pas pour l'instant à se mettre d'accord sur le sens fondamental de la vie en rapport à ces deux échelles, certes différentes, mais pourtant complémentaires de l'existence humaine. À savoir, comme il a été dit précédemment, qu'il n'est pas de collectif sans individu, ni d'individu hors d'une inscription dans son cadre environnemental aussi bien social que territorial. Au bout du compte, il semble évident que personne ne soit à l'abri d'une surestimation égocentrique de ses capacités en termes de groupe tout autant qu'en termes d'individu. Et c'est justement par cette surestimation que l'on s'expose le plus sûrement au danger de la récupération, celle-ci souvent opérée par le jeu de revalorisation sociale hypocrite et instrumentalisée à cette fin. C'est de ces multiples dangers qui peuvent guetter la contestation en vue de la récupérer et allant de la surestimation à la division, dont il est aussi question dans l'article « D'éternelle récupération de la contestation » écrit par Serge Halimi dans Le Monde diplomatique, paru en avril 2001, la distance nous permettant ainsi de considérer l'actualité persistante du sujet.
Que tout change pour que rien ne change. Ébranlé par les mobilisations de Seattle et de Porto Alegre, le discours des gouvernants et des possédants paraît avoir changé. Mais si ces derniers semblent disposés à accepter davantage de verdure, d'éthique et de concertation, c'est à la condition qu'on leur garantisse autant de profits qu'avant. Les opposants à la mondialisation néolibérale risquent-ils alors de contribuer à un ravalement sémantique qui cherche à absorber la contestation en la transformant en aile gauche du nouveau discours dominant? L'ordre capitaliste abjure ces discours de tueurs et de prédateurs. Un autre cycle commence. Concertation, transparence, éthique et proximité sont à l'ordre du jour. Mais pour que la métamorphose sémantique donne le change, pour que le système puisse vraiment déployer ses habits neufs, citoyens et tendres, il a besoin de partenaires, les contestataires. La récupération bat son plein. Où les militants anti-mondialisation peuvent-ils encore donner de la tête ? Entre les œillades qu'on leur adresse, les réunions de concertation auxquelles on les convie, les tribunes qu'on leur propose, les caméras qui les encadrent, les techniques de séduction deviennent même presque trop voyantes. Le Fonds monétaire international porte une part de responsabilité dans la ruine de nombreux pays pauvres et il fut complice, en particulier en Russie, des rapines de profiteurs pleins d'entre-gens. Qu'à cela ne tienne, son ancien directeur général, M. Michel Condessu, conclut sa carrière au Vatican, peut-être pour y implorer quelques miséricordes. En janvier 2001, l'organisation qu'il dirigea a même dépêché un observateur au premier forum social mondial de Porto Alegre, déjà doté de 100 000 $ par la Fondation Ford. Dans cette municipalité gérée par le Parti des travailleurs brésiliens, l'observateur du Fonds monétaire international croisa deux membres subalternes d'un gouvernement français dont les élans sociaux sont pourtant restés impeccablement maîtrisés. Également en janvier 2001, les conférenciers UP de Davos accueillaient M. Laurent Fabius, lui aussi dépêché par M. Lionel Jospin, mais cette fois pour rassurer les marchés. Et il lançait un prix destiné à un entrepreneur social. Quelques mois plus tôt, le commissaire européen au commerce, c'est-à-dire au libre-échange, le socialiste Pascal Lamy, s'était invité à l'université d'été de l'association ATTAC. Sans doute, pour parfaire sa connaissance d'une société civile qu'il avoue déjà fréquenter assidûment grâce à des chats sur Internet. De son côté, ébranlé par la révélation que la mort d'un enfant en Afrique n'est pas moins tragique que la mort d'un enfant en Amérique, M. Bill Gates a alloué 100 millions de dollars à une fondation, la Fondation Gates, qui lutte contre le sida. Enfin, pendant que M. Ernest Antoine Seyer patron des patrons, français, confessait avoir pour principal tourment la souffrance des autres. Monsieur Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, admettait qu'il aime les éditos de Charlie Hebdo et qu'il raffole du monde métissé qui se construit. Rien de tout cela, et pas même le fait que le nom de Karl Marx ait été cité à deux reprises lors du dernier forum de Davos, ne doit laisser penser que le capitalisme serait déjà sur la défensive. Les classes moyennes occidentales demeurent suffisamment nombreuses et prospères pour lui procurer les appuis nécessaires. Le ralliement de la gauche officielle au marché éloigne pour le moment l'hypothèse d'une alternative au néolibéralisme. L'asservissement de plus en plus voyant des médias au patronat, aux publicitaires et aux actionnaires freine une éventuelle contagion des luttes sociales, déjà entravées par la casse des solidarités collectives. Le PDG de Hewlett-Packard estime cependant « Il est dans l'intérêt à long terme de nos entreprises de travailler à la réduction de toutes les inégalités. » Fermez les guillemets. De la part du patronat, une telle sollicitude citoyenne marque un réel changement de climat. Un temps étouffé sous les clameurs des profiteurs de l'économie Internet et des turiféraires de la troisième voie, les mouvements d'opposition au libre-échange, aux privatisations et à la société de marché ont en effet retrouvé cette vigueur qui, de la France à la Corée, les avait fait surgir au premier plan à partir de 1995. Financés par l'argent public, mais au service quasiment exclusif des intérêts privés, les institutions économiques internationales, machines à fabriquer du marché, ont désormais compris que le maintien de leur influence passait par un effort supplémentaire de relations publiques. Elles ont les moyens de se l'offrir et elles sont assez avisées pour savoir que la contestation qu'elles affrontent est susceptible d'être résorbée comme la concurrence par la séduction ou le partenariat. Car ce n'est pas seulement, comme l'a admis M. Claude Smadja, directeur général du Forum économique mondial de Davos, que la mondialisation est devenue un phénomène qui prend l'allure d'un chien fou. C'est qu'à présent, cela se voit. Le krach boursier de la nouvelle économie, le ralentissement américain et diverses calamités écologiques et sanitaires, induites au moins en partie par la croissance continue du commerce mondial, dévoilent l'arrière-cour peu avenante d'un monde de développement et d'appropriation des richesses. La comédie de l'écoute et de la repentance va donc son plein. Le directeur des relations publiques et de la communication de l'OCDE explique. Depuis l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, nous avons essayé de faire évoluer le processus de consultation et d'échange avec la société civile afin que notre organisation devienne plus transparente, plus ouverte. Fermez les guillemets. En septembre dernier, à Prague, M. James Wolfensohn, président de la Banque mondiale, prétendait même « Nos buts sont très proches de ceux des gens qui protestent dans la rue. » Et M. Horst Köhler, directeur général du FMI, lui faisait écho. « Je me suis fixé comme tâche d'écouter et je suis rentré renforcé dans ma conviction qu'il faut essayer d'avoir un monde meilleur. » Fermez les guillemets. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, on pourrait faire une ronde autour du monde. Mais à moins de se laisser à nouveau bercer par ce que Pierre Bourdieu appelle l'élan aussi généreux qu'irréaliste qui a porté nombre d'intellectuels à prendre des révolutions dans l'ordre des mots ou des textes pour des révolutions dans l'ordre des choses. Fermez les guillemets. Mieux vaut savoir que les comptines bien pensantes n'ont aucunement ébranlé les colonnes du temple. À Davos, les patrons de multinationales avaient rivalisé de discours, insistant sur leur responsabilité sociale. Et dans ce registre, M. Jürgen Schremp, PDG de Daimler Chrysler, s'était révélé l'un des plus émouvants. Le lendemain de son homélie, Daimler Chrysler annonçait le licenciement de 26 000 salariés. Le nouveau discours « citoyen copain » semble donc avoir pour objet, moyennant quelques concessions d'ordre symbolique ou l'obole versée à quelques fondations, de faciliter le concours de la société civile à la stratégie patronale, afin, le moment venu, de coopter les contestataires dans le système dominant. Cette cogestion au rabais joue alors le rôle d'un système d'alerte, de lobbying, au service de la paix sociale. Vous critiquez l'ultralibéralisme de la Commission européenne? La Commission vous invitera à s'en tarder et à lui exposer votre point de vue. Les manipulations de l'opinion par l'OTAN pendant la guerre du Kosovo vous ont scandalisé? Venez à Bruxelles expliquer à un ministre de la Défense comment il aurait dû s'y prendre. Ainsi, demain, quand une bavure menacera l'image d'une coalition militaire, d'une organisation économique ou d'une grande entreprise, ses partenaires de la société civile seront conviés à lui servir de caution citoyenne. Un nombre croissant de multinationales ont d'ailleurs intégré à leur conseil d'administration, avec rémunération afférente, un responsable de la citoyenneté d'entreprise. Les employés indonésiens, des sous-traitants de Nike, restent surexploités et ne bénéficient d'aucune assurance médicale adéquate. Mais le fabricant de chaussures compte déjà une vice-présidente chargée de l'engagement éthique. Nike n'oublie pas non plus de financer un institut de recherche qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale. D'après une enquête internationale conduite auprès des leaders d'opinion, l'engagement social des entreprises a un impact positif sur ses succès commerciaux. C'est donc sans fausse pudeur que M. Bernard Arnault, patron de l'industrie du luxe, Dior, Vuitton, Givenchy, avoue la nature de son intérêt pour les mécénats. Il s'agira de donner plus de sens à la vie des gens, en soutenant par exemple des causes humanitaires, ce qui permettrait par ailleurs de donner un sens à la consommation de certaines marques. Son concurrent, M. Jean-Marie Messier, escompte de son côté que Vivendi Universal deviendra une sorte de laboratoire pilote tendant à la constitution d'un droit social européen, voire international. Fermez les guillemets. L'humanitaire, le sens, le droit, l'entreprise privée n'admet plus de frontières. Tout relèverait d'elle, y compris les contre-pouvoirs. Ainsi que l'a souligné M. René Rizel, ancien secrétaire national de la Confédération paysanne, quiconque observe de bonne foi l'évolution de cette société n'échappe pas à la conclusion qu'une de ses forces est de savoir répondre par anticipation, s'il le faut, aux nouveaux problèmes de gestion, de régulation et de contrôle sociaux que lui impose son incontestable victoire historique. Elle a appris qu'il sera toujours avantageux de mettre en scène les conflits fictifs où elle laisse aux adversaires factices qu'elle se choisit le soin de rédiger leur cahier de doléances et la liste des aménagements qu'elle a besoin de mettre en œuvre. Fermez les guillemets. Ce renouvellement de la dynamique du système par la critique, sa capacité de récupérer la contestation, son paternalisme maquillé en participation, n'ont rien d'inédit. Après mai 1968, le management avait ajusté ses techniques de production en tenant compte de la mise en cause par les libertaires de la hiérarchie et du fordisme. Luc Boltanski et Eve Chiapello rappellent les contestations auxquelles le capitalisme a dû faire face à la fin des années 1960 et dans les années 1970 ont entraîné une transformation de son fonctionnement et de ses dispositifs, soit par le truchement d'une réponse frontale à la critique visant à l'apaiser en reconnaissant sa validité, soit par des tentatives de contournement et de transformation pour lui échapper sans y avoir pour autant répondu. Les cercles dirigeants de la presse et de la communication ont depuis longtemps recyclé quelques 68 heures notoires en électrons de la nouvelle idéologie dominante, qu'il s'agisse des radios libres, devenues commerciales, ou des grands journaux normalisés qui se prennent encore pour un contre-pouvoir. Or, c'est souvent par l'entremise des médias que commence la récupération des contestataires. Comme ces syndicalistes absorbés par les organismes de cogestion, qui ont délaissé leur travail de terrain dans l'entreprise, des opposants de premier plan à la mondialisation croient gagner du temps et de la surface en se souciant exagérément de leur rapport avec les journalistes, trop souvent tentés de confondre réalité sociale et impact médiatique, ils ne voient pas que de telles dispositions confortent le pouvoir des médias d'exagérer un événement, d'en minorer un autre, et plus généralement d'être seul juge de ce qui compte, et de qui sera habilité à le représenter. Ce pouvoir tyrannique induit un coût, d'autant plus lourd qu'il est délégué à des entreprises de presse capitalistes, à des animateurs de télévision surpayés, ou plus simplement à des journalistes, très majoritairement issus des classes moyennes et supérieures. Et alors, au nom de l'urgence de paraître et de parler, certains militants, parfois éblouis par leur notoriété, consentent à sacrifier un pan entier de leur analyse de la manière dont les diverses composantes de la domination s'enchassent entre elles. Bons invités, bons partenaires, ils ne dérangeront pas trop l'argenterie idéologique et commerciale de ceux qui les ont conviés. Ils se plieront à leurs attentes, ils feront un petit tour et puis ils s'en iront.
Why?